15, 16, 17, 20 sous à certains endroits, là, pour certaines bannières, en effet. Alors, c'est toujours un peu une surprise de voir ça. Là, on ne reçoit pas un courriel la veille pour nous dire qu'il y a des talos qui s'en viennent. Et ben, ça a été le branle-bas de combat ce matin, là, de voir justement qu'est-ce qui se passait avec tout ça. Et ce qu'on remarque, en fait, du côté de Québec, là, nous, on fait des observations sur le prix de l'essence à tous les jours. On est souvent très prompt, je vous dirais, à pointer du doigt les détaillants, en effet, là, qui vont augmenter leur prix souvent très rapidement. Mais dans ce cas-ci, ce matin, on a été surpris quand même de voir. Ça ne semble pas être un enjeu au niveau là, de la marge au détail. Donc, c'est pas le moment d'aller chicaner son pompiste ou lui dire que c'est sa faute à lui. C'est pas ce qu'on retrouve ce matin. On a des marges somme toute raisonnables. Quand on regarde notre prix réaliste CA Québec, là, on est en deçà de ces prix-là sur le marché. Alors, c'est ce qu'on a vu de nous de notre côté.
Pourquoi tout le monde change le prix en même temps?
Ben, en fait, c'est tout le monde s'approvisionne pas mal au même endroit au final. Donc, ce qui est arrivé ce matin, quand on regarde justement les différents indicateurs, c'est que le coût d'acquisition de ce précieux or noir, comme le dit la chanson de M. Hallyday, tous les gens s'approvisionnent au même endroit. Donc, ce coût-là, c'est lui qui a monté énormément depuis hier. Alors, toutes les bannières qui probablement s'approvisionnent au quotidien au même endroit, ben, doivent payer cette essence-là plus cher. Donc, acheter un litre d'essence pour un détaillant ce matin, ça coûtait environ 1,81 à Montréal. Alors, si la bannière qui vendait, par exemple, à 1,68 hier ou 1,70, ben, qui achète son litre d'essence à 1,81 aujourd'hui, est-ce qu'on souhaite qu'elle le vende à perte au final ou est-ce qu'elle doit continuer?
Non, mais je suis un peu tanné, M. Ryan, de jouer dans la fiction qu'il y a de la concurrence dans ce milieu-là.
Ben, la réalité, en fait, ce matin, quand il y avait quand même différents endroits qui ont été peut-être un peu plus lents à réagir, par le passé, là, nous, de notre côté, on a fait des observations, par exemple, dans la région de Québec, on voyait là des marges au détail qui étaient très élevées. Donc là, on a posé des questions de comprendre justement pourquoi l'ensemble des bannières avaient des marges qui se ressemblaient. Je pense que c'est légitime de poser la question. Cela dit, je le mentionne, il n'y a pas 18 000 façons d'acheter de l'essence pour les détaillants présentement. Ils s'approvisionnent tous ou presque au même endroit. C'est un marché aussi avec une concurrence qui est mondiale. Hein. C'est pas au Québec qu'on décide du prix de l'essence, malheureusement. Alors, ce faisant, ben, ces bannières-là qui doivent s'approvisionner à cet endroit-là, c'est le prix qu'ils doivent payer sur le marché.
La question du passage de l'essence d'hiver à l'essence d'été, puis là, ben, c'est un mélange qui coûte plus cher. Je vous avoue, peut-être que j'étais dans en dessous d'une roche les dernières années, mais c'est la première fois que j'entends parler de ça. Vous?
Oui. Non, nous, on l'entend chaque année, mais cela dit, c'est pas le timing est peut-être pas bon cette année, dans le sens où une augmentation de 15 à 20 sous le litre, c'est majeur. C'est pas juste ça qui peut justifier une augmentation de 15 à 20 sous. Donc, en effet, c'est plutôt marginal. Peut-être 1 sou, 2 sous, 3 sous le litre. Mais oui, en effet, l'essence d'été coûte plus cher à produire. L'essence est différente en hiver pour aider justement les véhicules à démarrer par temps froid. Donc oui, on arrive au moment où on va changer ces essences-là. C'est supposé coûter un petit peu plus cher, mais certainement pas justement 15 à 20 sous, comme c'est le cas présentement. Et juste vous dire aussi, là, on a poursuivi nos observations aujourd'hui. Là où on semble voir qu'il y a eu une hausse au niveau du coût de l'essence, c'est au niveau de la marge de raffinage. Donc, c'est de ce côté-là qu'on voit qu'il y a une grande disparité entre hier et aujourd'hui. Il faudrait probablement demander la question à l'industrie. Qu'est-ce qui explique justement ce changement-là au niveau de la marge de raffinage?
Donc, ça pourrait donner aux gens l'idée de peut-être passer à l'électrique. Et je sais que CAA Québec est partenaire d'un salon là-dessus là, qui va avoir lieu en fin de semaine.
Oui, ben dès demain, là, c'est le salon du véhicule électrique de Montréal. En effet, là, on est partenaire depuis le tout début de ce salon-là, au stade olympique pour les 3 prochains jours. Il y aura en effet plein de modèles de véhicules électriques qui vont être sur place. Nous, de notre côté, nos experts vont donner des conférences et d'autres conférences. Mais à chaque fois, justement, que le prix de l'essence grimpe comme aujourd'hui, c'est souvent le bon moyen de se poser la question, est-ce que je veux passer à l'électrique? On peut aussi commencer à réfléchir à notre cocktail de mobilité. On sait qu'il y a des options qui existent. On peut faire, par exemple, prendre le transport en commun, faire un peu plus de transport actif. Je pense qu'il faut le mentionner. C'est une réalité. Les prix de l'essence ne sont plus comme ils étaient par le passé. On ne sera plus jamais en dessous d'un dollar, probablement. Donc, posons-nous la question, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin de consommation pour notre voiture? Est-ce qu'on peut faire du covoiturage aussi? Il existe énormément d'options. C'est ce qu'on souhaite peut-être quand on voit des prix grimper comme ça, de se poser la question sur notre propre consommation.
Merci beaucoup, M. Ryan. Bonne journée.
Merci.
C'était Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques chez CAA Québec. Il y aura peut-être un film sur le grand Frank Sinatra, pardon, bulle d'air au cerveau. Frank Sinatra qui est décédé il y a une vingtaine d'années. Peut-être que Leonardo DiCaprio va jouer le grand Sinatra dans un film de Scorsese. On en parle dans la chronique de Marjorie Vallée au retour.
Consommer encore plus de CFIX, c'est faisable et c'est facile. Pour consulter toutes nos nouvelles et nous écouter en direct, consultez directement notre site Internet, cfixrimouski.com. Mais ce n'est pas tout. Pour les concours et entrer en contact avec nous, allez sur notre page Facebook, les fans de CFIX 93 Rimouski. Pour être informé dès que nous obtenons une information, rendez-vous sur notre compte X, CFIX FM 93. Et simplement pour avoir des nouvelles de l'équipe, rendez-vous sur Instagram au CFIX FM 93. Qu'est-ce que vous attendez pour nous suivre?
Ce jeudi, chez vos Canadian Tire de Rimouski de Matane, c'est la grande fin de semaine rouge. Achetez pour 200$ et obtenez 30$ en carte cadeau et 20$ supplémentaires en argent Canadian Tire en utilisant votre carte triangle. Seulement chez vos Canadian Tire de Rimouski et de Matane.
FM 93.
Nouvelle régionale.
Voici vos nouvelles du 18 avril 2024. Le maire de Rimouski, Guy Caron, reconnaît avoir des réserves quant à la possibilité de réussite d'un nouveau projet immobilier sur le site de la partie ouest de la Grande Place. La firme Corev s'est portée acquéreur du terrain sur lequel était destinée la phase 3 du projet du Havre de l'Estuaire de Groupe Sélection. Après la faillite de cette entreprise, le terrain est devenu disponible. Si Corev veut construire et éviter les écueils vécus par les promoteurs précédents avec l'Association des propriétaires riverains, M. Caron recommande d'utiliser le concept et les plans déjà développés par Groupe Sélection pour mener à bien son projet. Le dossier des résidences du cégep de Rimouski n'est toujours pas réglé. On est toujours à la recherche d'un gestionnaire pour les 4 immeubles de l'avenue Saint-Louis. Même s'il ne considère plus la vente des résidences, le collège voudrait les céder par bail emphytéotique à un gestionnaire. Des négociations ont eu lieu récemment avec l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants, l'UTIL, mais elles n'ont pas été concluantes. Le grand ménage annuel des rues de Rimouski a débuté lundi. Les cols bleus s'affairent présentement au nettoyage et au balayage des rues, trottoirs et parcs municipaux, jour et nuit. La ville n'utilise plus d'eau potable pour le lavage des rues et les trottoirs subissent un balayage à l'aide de machinerie spécialisée au lieu d'un lavage à grande eau. Les différents parcs de la ville sont aussi débarrassés des feuilles mortes et des détritus accumulés tout au long de l'hiver. Et finalement, la ville de Rimouski informe la population qu'elle participera à nouveau cette année au mouvement En mai, laisse pousser. Cette initiative a pour objectif de protéger les abeilles, les papillons et les autres insectes pollinisateurs dont les populations sont en décroissance en retardant les premières tontes de gazon. La ville de Rimouski suspendra la tonte de grande surface gazonnée telle que le complexe sportif Guillaume Leblanc à l'exception des plateaux sportifs, le parc Beau Séjour ainsi que le secteur du Trimural du Millénaire pendant le mois de mai. La ville de Mont-Joli adhère aussi à cette campagne. C'était Pierre Michaud pour vos informations. Nos nouvelles se trouvent sur cfixrimouski.com.
CFIX 93, son équipe et le studio McDonald, un trio de champions. CFIX FM 93. Art et spectacle.
Marjorie, tu as eu la bonne idée d'inviter Henri Arnault pour parler de deux projets de films
oui,
dont on parle beaucoup à Hollywood.
Oui, tout à fait. Et Henri Arnault va être avec nous parce que ce sont deux grosses nouvelles qui sont sorties dans les dernières heures. D'abord, salut Henri.
Salut Marjorie, merci Patrick pour ces bonnes paroles, ça fait plaisir.
D'abord, il y a une certaine déception pour les admirateurs de Quentin Tarantino, un projet qui avorte.
Ça, c'est la nouvelle de la nuit qui a surpris tout le monde. Moi, le premier au réveil de Movie Critic, qui devait être le 10e et ultime film de Tarantino, puisque ça fait des années qu'il dit qu'il arrêtait après le 10e. Un film pour lequel Brad Pitt serait déjà engagé et qui devait, grosso modo, raconter l'histoire dans les années 70, de l'importance des critiques de cinéma, donc de plonger encore une fois dans l'univers d'Hollywood que Tarantino adore. Bref, il a annoncé qu'il a changé d'idée, qu'il ne fera pas ce dernier film. Et je crois que le vrai problème pour Quentin, avec lequel j'ai discuté à de nombreuses reprises, c'est qu'il tient absolument à ce que le 10e soit le dernier. Et ouais, quand on est un réalisateur, j'allais dire, un peu égocentrique comme Tarantino, il doit se dire, mon 10e a intérêt à être le meilleur de ma carrière. Et alors là, les projets qu'il a devant lui, ça va être compliqué.
Mais pourquoi s'entêter à justement s'arrêter à 10? Est-ce qu'on sait pourquoi?
Alors, moi, ce que Tarantino m'a dit la dernière fois que j'ai parlé avec lui pour Once a Time in Hollywood, c'est qu'il veut s'arrêter au 10e parce qu'il pense qu'il va laisser des traces indélébiles dans l'histoire du 7e art et que s'il faisait plus de 10 films, il risquerait de faire des mauvais films, de mauvais choix. Alors que là, ces 9 films sont pour lui littéralement dignes des écoles de cinéma et il n'a pas forcément tort. Mais le problème, Marjorie, c'est que maintenant, les rumeurs qui circulent depuis quelque temps sur Tarantino, c'est que il est passionné de Star Trek et qu'on lui a proposé de faire un nouveau film de la franchise. Il a parlé à de nombreuses reprises d'un 3e épisode de Kill Bill, mais ça serait quand même bizarre qu'il termine sa carrière sur un de ces films-là. Donc, ouais. Allons savoir.
Qu'est-ce qu'il va faire du reste de sa vie? 61 ans, c'est jeune pour un cinéaste là, quand on regarde l'âge vénérable de Martin Scorsese.
Je ne serais pas surpris, Patrick, que Tarantino se lance davantage dans l'écriture, qu'il laisse d'autres personnes réaliser pour lui, qu'il devienne producteur d'autres films. Lors du second Kill Bill, il m'avait dit en interview que ça y avait pris tellement longtemps, qu'il avait eu des nuits blanches parce qu'il avait peur de rater cette suite, qu'il aurait peut-être mieux fait de laisser un autre metteur en scène le faire à sa place. Donc je pense que son idée de se limiter à 10, ça vient peut-être de ça.
OK. Patrick a évoqué Martin Scorsese et on va en parler parce qu'il y a une autre nouvelle qui concerne un projet de film qui, celui-là, devrait avoir lieu. En fait, c'est un biopic, donc un drame biographique sur la vie de Frank Sinatra.
Et ça aussi, Marjorie, c'est intéressant qu'on parle de ça parce que Martin Scorsese, comme le disait justement Patrick, a dépassé les 80 ans. C'est quelqu'un qui a toujours pris son temps avant ses projets. Alors, on a parfois attendu 2 ans, 3 ans, 4 ans avant d'avoir un nouveau film de Scorsese. Et alors là, à 81 ans, il a 2 projets de film, 1 projet de série dont il serait producteur. On a presque l'impression que plus les années avancent, plus il a envie de se dépêcher de travailler. Le projet de Frank Sinatra qui a été annoncé dans les couloirs des studios d'Hollywood, c'est littéralement quelque chose qui pourrait faire l'effet d'une bombe, parce que ça serait une nouvelle collaboration avec DiCaprio. Mais en plus de Léo, il voudrait Jennifer Lawrence pour jouer la femme de Sinatra. Donc, ça serait quand même du gros. Et oui, en sachant qu'en même temps, donc, Scorsese travaille en association avec Steven Spielberg sur l'adaptation de son film Cape Fear en série télé pour Apple TV. Donc, on va voir s'il arrivera à faire tout ça en même temps.
Frank Sinatra était un personnage. Qu'est-ce qui te frappe comme étant du bon matériel cinématographique dans sa vie, Henri?
Ah, le principal, Patrick, c'est certainement, outre les succès de variété des chansons de Sinatra, c'est son implication directe ou non, approuvée ou non, avec la mafia italienne, américaine de l'époque. Mais je crois que ce projet de l'histoire de Sinatra a été un petit peu poussé auprès de Scorsese, parce qu'on a énormément de films autour de chanteurs, d'artistes. Encore une fois, on en parlait la semaine dernière, Patrick, hein, l'histoire de Freddie Mercury et Queen, c'est devenu un énorme succès. Il y a un film sur l'histoire de Michael Jackson qui va sortir. Bref, on a beaucoup de ces gens-là qui s'intéressent à la musique dans le 7e art, et c'est évident que l'histoire de Frank Sinatra entre ses succès et la mafia, ça va passionner tout le monde.
Oui. Leonardo DiCaprio et Frank Sinatra, il me semble, écoute, je regarde les deux beaux bonhommes, sauf que je me dis...
Ah, les yeux, on dirait que...
Oui, ils ne ressemblent pas tant que ça.
J'attendais, Patrick, que tu dises un truc comme ça. C'est plus, d'après moi, l'association de Scorsese et DiCaprio, où il faut trouver l'implication de Léo qu'autre chose, parce que Scorsese n'accepte de recevoir, entre guillemets, des notes, des changements dans son script, etc., que de 2 personnes dans l'industrie. Le premier, c'est De Niro, et le deuxième, c'est DiCaprio. Et quand on sait que DiCaprio, encore une fois, j'en parlais avec lui à Cannes l'année dernière, pour leur dernier film commun, DiCaprio disait très très simplement, oui, mais le script de Scorsese était bien, hein, mais moi j'ai voulu qu'il change ça. Je disais, mais le géant qui est Scorsese dans le 7e art, il a accepté tout ça? Il a accepté. Donc, à mon avis, c'est cette association de 2 stars, un devant, mais derrière la caméra, qui est la réponse.
J'oublie le titre du film, mais encore un film de mafieux qui avait été fait par Scorsese là, récemment, là, avec Pacino, De Niro, mais on avait utilisé les modifications par ordinateur pour changer des faciès quand
ça
même.
Ça pourrait être utilisé effectivement aussi pour Frank Sinatra.
Mais ça, ça reste un vrai problème pour un autre film qui s'appelle Le jeu de la reine qui sort au mois de juin. J'ai interviewé récemment Jude Law, l'acteur anglais,